France Culture.
Bienvenue à toutes et à tous. Douce France, une heure pour raconter la France dans toutes ses nuances.
Mesdames et messieurs, les élus, les membres des délégations des villes candidates, les équipes des villes candidates, mesdames et messieurs, les membres du jury, chers amis, quel suspense. Je vous cache pas que je suis, comme vous toutes et tous, extrêmement impatiente de savoir quelle ville a retenu l'attention du jury européen pour devenir la capitale européenne de la culture en 2028. C'est une décision qui va entraîner tout un territoire pour pas seulement les 5 prochaines années, mais bien au-delà, pour de nombreuses années. Donc je comprends bien la fébrilité qu'il y a dans cette salle. Ce concours, c'est le ministère de la Culture qui en était à l'origine avec le ministère grec de la Culture. Une idée portée par la légendaire Mélina Mercouri, quelques années après que la Grèce eut rejoint l'Union européenne. Concours qui a abouti dans notre pays à de beaux succès. Si je ne cite que les deux dernières villes titulaires du titre, Lille en 2004 et Marseille-Provence en 2013, ces capitales européennes ont profondément modifié les territoires qu'elles ont irrigués. Elles ont durablement inscrit la culture au cœur des politiques publiques. Elles ont fédéré au-delà de la culture. Elles ont relié tous les champs, tous les acteurs du territoire. Et elles ont laissé des traces qu'on voit encore aujourd'hui. Être capitale européenne de la culture, c'est incarner au plus près de nos citoyens une Europe ouverte, généreuse, diverse, mais une Europe aussi concrète, une Europe du quotidien.
C'était en décembre 2023, il y a plus d'un an, autant dire une éternité en politique. Rima Abdulmalak était encore ministre de la Culture et assistait à la désignation de Bourges, capitale européenne de la culture 2028. Un sacre pour la belle endormie du Berry et la fin d'une compétition débutée plusieurs années plus tôt entre plusieurs villes de France. Après Lille, Avignon ou Marseille, ce sera donc au tour de Bourges de briller. Capitale européenne, un label de choix et sans doute le plus connu des Européens. Pourtant, c'est peu dire que ces labels sont pléthoriques. En 2024, le pays de Montbéliard a été désigné capitale française de la culture. Strasbourg, quant à elle, est capitale mondiale du livre. Avignon a décidé de faire vivre à nouveau sa dynamique territoriale née de la capitale culturelle européenne, tout comme Lille, qui continue de glisser sur l'héritage de son année capitale en 2004 via le programme Lille 3000. Nantes, c'est l'Uber capitale par excellence. Capitale verte de l'Europe, capitale européenne de l'innovation, villes et villages fleuris, label French Impact et diversité, et cette liste est encore loin d'être exhaustive. À quoi bon tant de labels ? Pourquoi les édiles décident-ils de se lancer dans ces compétitions à grand renfort de marketing territorial, de lobbying, voire parfois d'intrigues politiques pour hisser leur territoire au sommet du podium des capitales ? Faut-il y voir un levier pour susciter des dynamiques collectives ou un énième dispositif institutionnel qui peine à inclure les habitants ? Au sommaire de Douce France, Bourges, Strasbourg, Montbéliard, à quoi bon être capitale ? Venez, je vous emmène. Bonjour Renaud Epstein.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous avez signé en 2022 « On est bien arrivé, un tour de France des grands ensembles » aux éditions Le Nouvel Attila. Mais vous avez surtout réalisé votre habilitation à diriger des recherches, je vais y arriver, autour de la distinction urbaine, sociologie politique, des trophées et labels. Bienvenue à vous. Nicolas Maizetti, bonjour.
Bonjour Nora Madi.
Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université Paris 8, exactement à l'Institut d'études européennes. Vous avez signé Opérations culturelles et pouvoirs urbains, instrumentalisation économique de la culture et lutte autour de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, donc 2013. Ça a paru aux éditions L'Harmattan en 2014. Et votre dernier ouvrage paru en 2022, Maudire la ville, socio-histoire comparée des dénonciations de la corruption urbaine aux presses universitaires du Septentrion. Nicolas Maizetti, je vais commencer avec vous. On entendait à l'instant l'ancien ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, rappeler la compétition effrénée pour la capitale européenne de la culture, la fébrilité. Pourquoi cette compétition est si centrale au niveau européen ?
Parce que ce label, déjà, il emporte une histoire longue et une histoire de succès.
au regard en tout cas des promoteurs à la fois européens et nationaux, et puis dans les villes qui ont obtenu ce label, donc qui existe depuis 1985 maintenant, et puis surtout qui, en 1990, avec la désignation de Glasgow, capitale européenne de la culture, a connu vraiment un nouvel élan, puisqu'il a été utilisé par les villes ensuite, par Glasgow d'abord et par les autres villes lauréates ensuite, pour transformer complètement à la fois leur image, mais aussi leur économie.
Donc, il faut le rappeler, Glasgow, c'est une ville qui est frappée de plein fouet par la désindustrialisation à ce moment-là et qui décide de candidater pour justement se lancer dans une forme de transformation.
Absolument. À partir de ce moment-là, la culture devient un levier de ce qu'on a appelé la régénération urbaine, c'est-à-dire la transition d'une économie industrielle, mais désindustrialisée, comme vous l'avez dit, vers une autre forme d'économie tournée vers les services et aussi vers les industries culturelles qui sont supposées véhiculer une autre image, une autre réputation des villes, et puis aussi faire venir par des effets d'attractivité des investisseurs, des touristes, des classes moyennes supérieures qui viendraient ainsi repeupler à la fois la ville et redonner un souffle à leur économie. Et à partir de ce moment-là, un certain nombre de villes qui ont obtenu ce label ont joué cette carte-là, de ce levier culturel en termes de redéveloppement urbain et économique. Donc les cas les plus connus, c'est Liverpool par exemple en 2008, et puis un certain nombre d'autres villes jusqu'à Marseille en 2013, qui a aussi un peu surfé sur cet impératif d'attractivité par la culture.
Alors justement, Renaud Epstein, cette logique d'attractivité, vous ne travaillez pas spécifiquement sur ces labels culturels, mais alors il y en a pléthore. Pourquoi ces labels sont aujourd'hui à ce point recherchés par les villes dans des logiques de compétition territoriale?
Alors les raisons sont multiples, elles sont d'autant plus multiples que, comme vous l'avez dit en introduction, il y a une pléthore de labels. Pratiquement chaque semaine se crée un nouveau label. Ce qui est intéressant dans le cas du titre de capitale européenne de la culture, comme l'a rappelé Nicolas Maizetti, c'est que depuis Glasgow 90, ce label est perçu par les élites urbaines des grandes métropoles européennes comme un levier extrêmement efficace pour organiser des stratégies de redéveloppement post-industriel. Ce qui tient, à mon sens, à deux choses. D'abord, au fait que ce label de capitale européenne de la culture a cette spécificité que ce n'est pas qu'une distinction, ce n'est pas qu'un titre, c'est un titre qui est attribué pour une programmation annuelle. Et donc, on est peut-être plus avec ce label, c'est une vraie spécificité par rapport à bien d'autres, dans une logique de ce qu'on appelle les méga-events, comme les JO, comme une exposition universelle, où d'un seul coup, on est mis sur la carte du monde, où pendant une année, ou pendant un mois pour les JO, c'est là que ça se passe. Et on attire les regards, et donc, de fait, c'est vraiment un élément qui peut participer à l'attraction de touristes, de visiteurs. Ce qui est au cœur des stratégies de développement d'un certain nombre de grandes villes qui se perçoivent aujourd'hui comme étant en compétition globalisée pour faire venir des ressources rares. Il faut bien voir, et on aura l'occasion d'en discuter dans cette émission, que l'immense majorité des titres de capital ou des labels n'ont pas exactement cette fonction-là.
Alors justement, plongeons-nous dans ces labels pléthoriques, capitale européenne de la culture, on vient d'en parler, capitale française aussi de la culture, capitale mondiale du livre, petit tour d'horizon des capitales françaises par Vanessa Nadjar.
Lille, capitale européenne de la culture, avec le concert inaugural hier soir. Jean-Claude Casazuela-Baguette, dirigeant plus d'un millier de musiciens et de choristes. Un spectacle inoubliable avant les bals où chacun était habillé de blanc. La fête a duré toute la nuit.
L'image de la ville a changé grâce à la culture. Je crois qu'il faut le dire, quand The Times disait Lille en première page, the place to be, l'endroit où il faut être, alors même que la plupart des Américains ou des Anglais ne savaient pas où mettre Lille sur la carte, je crois qu'aujourd'hui Lille est sur la carte du monde.
Marseille, capitale de l'Europe. Oui, capitale européenne de la culture. La deuxième ville de France sera donc le théâtre de centaines d'événements cette année. D'ores et déjà, certains quartiers ont été transformés.
Il n'y avait rien à Marseille. Maintenant, en l'espace de quelques années, on a créé des théâtres, des lieux culturels. Ça va devenir la capitale tout court.
Pays Montbéliard Agglomération sera capitale française de la culture 2024. Donc elle nous a décerné ce label ce matin.
Je voulais être là ce soir pour pour vous dire que ce soir, évidemment, le gouvernement de la France, mais toute la France a les yeux tournés vers Montbéliard, qui est notre capitale française de la culture, et c'est une très grande fierté pour toute la France, et je le sais pour tous les élus du pays de Montbéliard. Bravo à vous, et merci à vous d'organiser cette soirée et toutes les manifestations qui auront lieu cette année. On est très fiers de vous et de ce qui se joue ici aujourd'hui. Bravo à tous.
La ville de Strasbourg, 8e ville de France, qui a été choisie pour devenir la capitale mondiale du livre jusqu'en avril 2025.
Beaucoup d'émotions depuis ce matin, puisque nous avons lancé officiellement cette année capitale mondiale du livre. Aujourd'hui, le 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et des droits d'auteur.
Bourges, la préfecture du Cher, deviendra en 2028 capitale européenne de la culture.
On a proposé vraiment une capitale sobre, une capitale qui fait très attention à l'environnement, au développement durable. Et on a proposé des thématiques qui ont profondément intéressé, je pense, l'Europe et le jury. Ce qu'on a dit au jury, c'est qu'en 2028, on ne pourra pas vivre une capitale européenne comme elles se sont vécues auparavant. Je vous donne un exemple très concret. Dans les années précédentes, notamment à Marseille, eh bien, les gens sont énormément venus en avion. Nous, on considère qu'en 2028, on ne viendra pas en avion à Bourges.
Voilà, en 2028, on ne viendra pas en avion à Bourges, nous dit le maire Yann Gallu. Effectivement, de toute façon, il n'y a pas d'aéroport à Bourges. On entendait aussi Charles Demouge, on entendait la maire de Lille, Martine Aubry, qui dit, bah voilà, Lille a été placée sur la carte du monde. C'est quand même bien ça, l'objet Nicolas Maizetti, c'est placer sa ville sur la carte du monde.
Ce qui est intéressant avec ces labels, c'est qu'ils sont vraiment multidimensionnels. Pour les élites politiques urbaines, c'est vraiment des ressources de légitimation. D'ailleurs, le cas de Lille 2004, c'est un cas vraiment exemplaire de la manière dont Martine Aubry s'est saisie de ce label pour s'installer au pouvoir municipal dans la succession de Pierre Mauroy. Ça, c'était vraiment un moment important pour elle. Donc c'est d'abord une ressource de légitimation. Et puis c'est aussi, deuxième élément, on en a parlé, hein, des ressources de développement économique. J'y reviens pas, mais c'est essentiel et crucial pour ces villes. Et puis, troisième élément, c'est des ressources aussi pour transformer la matérialité de la ville. Et c'est important aussi dans cette concurrence, dans cette compétition internationale et ou nationale des territoires. C'est voilà, fabriquer un musée, fabriquer des équipements culturels. Donc à Lille, il y avait ces maisons folies, à Marseille, bien sûr, le MUCEM. Et donc partout, on voit se recomposer, se refonder la matérialité des villes. Et puis, le dernier élément, c'est de refonder aussi des imaginaires territoriaux. Et ça aussi, c'est important pour des villes parfois perçues en déclin ou avec des réputations compliquées à négocier. Et ces labels culturels, en particulier la culture, mais d'autres types de politiques publiques peuvent être pertinentes aussi sur ce point-là, réinventer des imaginaires et des réputations territoriales mises à mal.
Alors ça, on va y revenir spécifiquement sur cette réimagination des récits. Mais Renaud Epstein, pourquoi on a créé ces labels? Depuis quand ça existe?
Alors la question est, je trouve, très intéressante, parce que quand on regarde les labels, on regarde plutôt les villes qui les reçoivent, oui, que ceux qui les décernent. Or, la création, c'est bien... Alors, ça va être l'État, ça va être l'Union européenne.
Ça va être l'UNESCO.
Et ça peut être de multiples opérateurs privés, publics, des associations, etc. Alors, c'est toujours difficile de parler de manière générale de ce truc qui est aussi foisonnant et diversifié, mais quand même, pourquoi est-ce qu'il y a création de labels? Si on se contente de l'Union européenne ou de l'État, les raisons, elles sont multiples, et souvent les acteurs, quand on leur demande, ils savent même pas. Quand on avait fait avec Nicolas une recherche sur le label Métropole French Tech, qu'on interviewe les personnes qui ont créé ce label, ils disent on voulait lancer une politique de soutien à l'économie numérique, on n'avait pas de budget, on savait pas trop ce qu'il fallait faire, mais dans le bureau d'à côté, il y avait un mec, une fille qui avait été à l'origine du label Éco-Quartier, qui nous ont dit voilà, tu peux faire un label, ça marche. Donc parfois c'est des choses comme ça, on va essayer de nous donner sens après, mais les acteurs eux-mêmes, souvent, c'est un label, faut bien voir, ça coûte rien. Et dans une période de disette budgétaire qu'on veut lancer, qu'on est l'État, l'Union européenne, qu'on veut lancer une politique, qu'on n'a pas de budget, mais un label, c'est génial.
Ça veut dire qu'en fait, vous avez l'État, enfin par ses agents, qui décide de soutenir une politique publique quelle qu'elle soit, et qui se dit, comme j'ai pas un COPEC, en fait, je vais créer un label, ce qui veut dire un cahier des charges, et donc des villes qui vont se mettre en compétition pour répondre à un cahier des charges, et donc qui vont impulser cette dynamique.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement dans le cas de services de l'État qui n'ont plus l'argent pour initier des politiques massives, mais en plus souvent qui ne savent pas ce qu'il faut faut faire, qui n'ont plus, l'État n'a plus l'expertise nécessaire souvent pour dire ce qui doit être la norme, pour dire quelles sont les bonnes solutions face à un certain nombre de problèmes, notamment sur des domaines émergents de l'action publique.
Et puis, il y a aussi des logiques de territorialisation de l'action publique qui font que, face à la décentralisation, vous ne pouvez pas non plus décréter, comme la DATAR à son époque, on va faire ci à cet endroit.
Et tout à fait, le label, c'est un instrument qui est assez merveilleux, parce qu'il est très respectueux de la subsidiarité, on ne dit pas aux villes ce qu'elles doivent faire, et sans même savoir ce qu'on doit faire, on dit à l'État, l'État dit aux villes, faites-nous des propositions, dites-nous ce que vous faites. Ce qui permet à l'État de faire remonter toute une série d'expériences, de voir finalement, ensuite de choisir, de dire, voilà ce qui me semble exemplaire, voilà ce qui me semble être aujourd'hui, quand on veut faire une politique de régénération urbaine par la culture, voilà ce qu'il faut faire, quand on veut faire une politique de lutte contre la discrimination, voilà ce qu'il faut faire. Quoi.
Ça, par exemple, c'est le label diversité.
Le label diversité. Et ça permet à un État qui n'a plus de ressources d'autorité, qui ne peut plus imposer aux villes, ou de moins en moins ce qu'elle doit faire, qui n'a pratiquement plus de ressources budgétaires ou de marge de manœuvre budgétaire pour soutenir de nouvelles politiques, et qui n'a plus l'expertise pour dire ce qui doit être fait, avec cet instrument qui coûte rien, de résoudre finalement ce problème intrinsèque aujourd'hui de l'État en suscitant par des politiques incitatives des projets de la part des villes, en insistant les villes à aller dans telle ou telle direction. Parce que pour une ville, répondre à tel appel à projet pour une labellisation, d'un seul coup, c'est prendre un dossier et le mettre au sommet de la pile par rapport à d'autres sujets. Et tout ça sans un franc et sans un euro, et ça permet ensuite à l'État de recueillir un stock d'initiatives, de bonnes pratiques, entre guillemets, et ensuite de dire à toutes les autres villes, celles qui n'ont pas été labellisées, de dire, regardez, si on veut faire une politique de développement culturel, si on veut faire une politique de développement de l'économie numérique, il faut faire comme X, comme Y, ce sont des villes modèles, et inciter toutes les autres villes à copier, à s'inspirer de celui qu'on a désigné comme étant capital, labellisé, ou ce qu'on veut.
Mais Nicolas Maizetti, ça veut dire qu'en creux, ça aseptise aussi l'action publique territoriale.
Ça leur standardise, en tous les cas. C'est-à-dire que c'est un des effets des circulations des modèles de politiques urbaines ou de politiques territoriales. En désignant des exemples, des modèles, et effectivement, on désigne des bonnes pratiques à reproduire. Et donc, en effet, on va avoir partout les mêmes dynamiques de développement ou les mêmes initiatives, puisque il faut faire comme celles et ceux qui ont été désignés. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que on parle d'attractivité, et donc il faut dire le mot, on est dans l'ère néolibérale des politiques publiques, des politiques territoriales, ça veut dire de la concurrence. Et c'est intéressant toujours d'observer que pour évoluer dans ce monde de la concurrence, on va faire comme les autres. On va imiter pour se distinguer.
C'est ça qui est intéressant, par exemple, sur les stratégies de capitale européenne de la culture, c'est que vous finissez par avoir à peu près les mêmes personnes qui ont pu faire la compétition à Mons, qui ont été dans les staffs de Lille 3000, enfin Lille 2004 devenue depuis Lille 3000. Tout ça tourne, on connaît les jurys. C'est-à-dire que là, en fait, finalement, on se retrouve avec ceux qui ont le plus de capacité à avoir du capital et à intégrer ces sphères de pouvoir, à faire du lobbying, à faire parfois, voilà, je le disais en introduction, voire à avoir des logiques politiciennes de couloir, c'est ceux-là qui potentiellement y arrivent mieux encore ?
Absolument, et même au-delà. Alors il y a effectivement, on copie des systèmes d'acteurs, des modes de faire, mais aussi, en résultat, on va avoir des villes qui se ressemblent. Je parlais de la matérialité tout à l'heure.
Bien sûr.
On va avoir les villes avec leurs musées qui vont bien à tel endroit, le centre commercial juste à côté, formes de... alors on parle de tramway, en tout cas de politique de mobilité qui vont aussi avec ces distinctions et ces récompenses. Et donc, même matériellement, les villes, je ne sais pas si elles sont aseptisées, mais en tout cas, elles sont standardisées, elles se ressemblent.
Alors, tout à fait, et comme l'a dit Nicolas, on a quand même aussi une forme de tension d'imitation et en même temps de distinction permanente. C'est-à-dire qu'une ville qui est labellisée, qui est désignée comme une ville modèle, on incite toutes les autres villes à la copier, et en même temps, le label, on l'a pour une période donnée, et il va falloir, si on veut l'avoir l'année suivante, 2 ans après, faire encore mieux, faire de nouveau, se distinguer des autres. Et sur ce que vous indiquiez, Nora, sur c'est le fait qu'il y ait des petits milieux qui se constituent, et que ce soit les mêmes villes, finalement, qui accumulent les ressources, vous avez parfaitement raison, on est dans des systèmes dans lesquels on arrose là où c'est déjà mouillé, comme on dit. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont déjà le plus de ressources qui sont en meilleure position pour capter de nouvelles ressources pour une raison toute simple, c'est que répondre de monter un dossier de candidature, c'est compliqué. Ça demande des compétences professionnelles, un apprentissage. Et en plus, qu'on a déjà reçu un titre de capitale de je sais pas quoi, bah, on peut le mettre dans son CV territorial. Et c'est un signe qui va dire à l'État, à l'Union européenne, bah ouais, eux, ils savent le faire.
D'où d'ailleurs le fait qu'une ville comme Nantes est multiprimée et vous avez travaillé notamment sur cette ville.
Oui, Nantes, c'est, moi j'avais dit, Nantes capitale des titres. Et Nantes, ils sont devenus, ils ont une expertise qui est dingue, à tel point que pour quand Nantes est désignée capitale européenne, capitale verte de l'Europe en 2013, ils arrivent avec un dossier, ils sont quatrième, troisième ou quatrième après l'instruction technique et très 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 loin derrière les ceux qui arrivent devant. Ils vont à l'oral en disant on n'a aucune chance parce que techniquement on est loin derrière. Donc on comprend comment ça fonctionne le label, on regarde qui est membre du jury, et donc on va faire un argumentaire complètement différent. Il y a toute une stratégie de conviction qui se joue parce qu'ils ont compris les règles du jeu du label. Mais en même temps, vous avez cité Bourges. Bourges, je trouve que c'est un bon exemple parce que ça nous dit que c'est pas une ville secondaire peut devenir capitale comme ça parce que ils ont senti le coup. Yann Gallu, il a senti le coup, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où il y a eu France périphérique, gilets jaunes, ce qu'on veut, et l'État aujourd'hui ne veut surtout plus parler des métropoles, ils ont trop peur. Hein, c'est les petites villes, ce qu'on veut. Et donc là, à un moment donné, c'était le bon coup, montrer symboliquement que l'État ne s'intéresse pas qu'à Paris, Nantes, Marseille, mais aussi à Bourges, Vesoul, Montbéliard. Voilà, ça coûte rien et c'est un bon signe politique.
Alors justement, plongeons à Montbéliard. Quand la ruralité devient le centre avec ses 73 communes situées près de la frontière suisse, le pays de Montbéliard a été déclaré capitale française de la culture en 2024. Charles Demouge est le président du pays de Montbéliard. Joint par téléphone, il me raconte la genèse de cette candidature et son bilan après une année de programmation.
On manque d'un cachet d'attractivité. Donc, on dit, on va faire connaître partout en France ce qu'on est capable de faire au niveau culturel dans le pays de Montbéliard. On a quand même une scène de musique actuelle, on a une scène nationale, ma scène nationale. On construit un conservatoire de portée départementale. On a du patrimoine. Donc, ça vaut quand même la peine de montrer ce qu'on sait faire dans le pays de Montbéliard. Vraiment d'apporter toute la culture possible avec la culture populaire dans l'ensemble des communes et de toucher 140 000 habitants. Voilà les raisons pour lesquelles on a postulé pour ce label capitale française de la culture. La culture, ça ne se résume pas uniquement dans des grandes vedettes qui viennent. Donc on a deux lignes de conduite, c'est sobriété et transition écologique, parce que je dirais qu'aujourd'hui, avec notre problème aujourd'hui de filière automobile qui est en difficulté, je crois qu'on est allé plus sur la diversification de notre territoire au niveau industriel. Mais on a surtout axé sur notre patrimoine. À la fois, j'ai vu par exemple, fait par un groupe d'écoles primaires, qu'ils ont fait un film sur les 73 communes en mettant la richesse de chacune de ces communes, qui peut être le patrimoine industriel d'une part, qui peut être le FC Sochaux d'autre part, qui peut être les fontaines, etc. Vous voyez, toute la richesse de notre patrimoine, qu'il soit industriel ou simplement patrimonial, a été reproduite dans un film qui va rester, parce que c'était ça aussi notre objectif, c'est qu'il reste quelque chose. Le bilan pour nous, c'est 350 manifestations qui ont été produites sur chacune des 73 communes. Les Suisses voisins nous ont demandé un rendez-vous. Ils veulent venir voir. Ils ont suivi ce qu'on a fait. Et ils veulent faire, eux aussi, une capitale suisse de la culture. Au niveau financier, on a mis nous-mêmes 1,5 million de plus que les 3 millions habituels. Le label, c'est 1 million qui venait de la Banque des Territoires et de l'État. Et nous, notre petite déception, c'est que malgré avoir contacté des agences de publicité nationales, ils étaient certains qu'ils auraient des mécènes, on avait tablé sur 500 000 euros de mécénat, et au niveau mécénat, on a eu zéro. Les entreprises qui ont voulu nous aider l'ont fait que matériellement, mais au niveau financier, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a vraiment eu un engouement populaire, et je pense que l'ensemble des habitants du pays de Montbéliard vont dire, ouais, ben, on a vécu la capitale française de la culture.
Voilà, c'était Charles Demouge, le président du pays de Montbéliard. Alors justement, si on continue de plonger dans ce territoire désindustrialisé, on l'entendait à l'instant dans la bouche du président, le 19 est un centre d'art qui a participé à cette saison capitale française de la culture. Grâce aux subventions accordées, le centre a pu travailler avec une artiste américaine qui a produit une dizaine d'œuvres en dialogue entre New York City et Montbéliard. Reportage de Clara Menet.
Je suis Adeline Lépine, directrice du 19 Centre Régional d'Art Contemporain de Montbéliard. Alors, on a deux expositions en ce moment. Ça vient clôturer aussi pour nous, en fait, cette année Capitale Française de la Culture. Deux expositions qui ont été estampillées. Et on a deux artistes. Une artiste nord-américaine qui s'appelle Marie Lawrence. Une artiste qui travaille beaucoup sur la question du territoire et d'une relation à un écosystème spécifique. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'inviter Marie à avoir un regard ici, dans l'agglomération. Donc, elle est venue plusieurs fois. Elle a passé beaucoup de temps, elle a navigué notamment avec la barque qu'on présente ici suspendue sur le canal du Rhône-Rhin, ici, sur l'Allan. Et notamment, une des plus importantes réalisations pour l'expo, c'est ce film qui s'appelle Confluence, donc comme l'expo, où l'artiste a filmé à la fois à New York et à Montbéliard. Et du coup, on a comme ça une mise en regard de ces deux géographies avec l'intervention d'une chanteuse, Charlotte Mundy, qui est soprano, qui a déjà travaillé avec Marie et un compositeur, Kurt Rode, pour un opéra pour Rivière qui a été composé à New York. Et elle reprend une partie du libretto ici dans le film. Je pense que, en tout cas, pour la plupart des acteurs culturels, quand je remonte le fil du moment de l'annonce et on nous réunit, je pense que spontanément, tout le monde s'est dit, ce label, il va permettre une plus grande visibilité. Donc, il va y avoir des médias nationaux comme vous qui vont se déplacer, qui vont venir documenter ce qui se passe sur ce territoire, où on est sur un territoire qui a quand même ce ressenti d'enclave, qui est étonnant, c'est-à-dire à la fois culturellement, il est revendiqué, et en même temps, parfois, du coup, c'est un territoire qui se sent aussi isolé, coupé, pas assez regardé. Et puis, on a après aussi, évidemment, sur la question de la labellisation, on annonce que l'État va donner de l'argent supplémentaire aussi pour porter des événements à l'agglomération. Et donc, forcément, tout acteur culturel se dit, ça va me permettre aussi, peut-être, de mener tel projet que j'avais pas les moyens de mener jusque-là. Ou de faire les choses un peu différemment, ou de faire en plus grand, ou de faire plus sur du plus long cours, voilà. Nous, finalement, là où ça a changé, c'est effectivement, par exemple, typiquement sur Marie, c'est faire venir une artiste de loin. Et puis, ça veut dire, comme je vous le disais, voilà, pouvoir offrir à un ou une artiste la possibilité de produire un certain nombre d'œuvres. Là, j'ai récemment justement fait un peu le calcul. J'ai compté en série parce que sinon ça devenait exponentiel. Mais voilà, il y a plus d'une dizaine d'œuvres toutes nouvelles produites pour Marie. Donc ça, c'est le soutien à la création qui est notre rôle premier. Donc ça, c'est très positif. Et en plus, comme je vous le disais, en termes de sens, et ça c'est très important pour le 19 et sa programmation, avoir cet argent complémentaire permet de faire venir l'artiste plus longtemps. Et donc d'avoir vraiment une expo qui parle du territoire, puisqu'elle y a passé du temps, elle s'est immergée et elle s'est nourrie de cette expérience.
Voilà, vous venez de plonger dans le Centre d'art le 19 à Montbéliard. Nicolas Maizetti, qu'est-ce que ça vous inspire entre les deux interventions, Charles de Mauget et ce reportage? Finalement, on a tout, l'idée de repenser l'attractivité, de placer la ville sur une carte, de changer l'image de la ville, de changer son récit, quitte à faire venir une artiste qui fait dialoguer New York et Montbéliard. Là-dedans, on a un peu le sentiment de revivre encore Glasgow 1990 dont vous parliez en début d'émission.
Oui, c'est vrai. Il y a un discours depuis quelques années de dépassement de l'attractivité, comme si l'attractivité était à bout de souffle, comme si cette injonction, je disais néolibérale, qui a structuré les politiques urbaines pendant au moins 20-30 ans, était venue à son terme, et comme s'il y avait quelque chose d'autre, une nouvelle ère qui s'ouvre. Alors, les géographes parlent d'habitabilité, de respect des ressources naturelles, de préserver plutôt l'accueil plutôt que l'attractivité. On parle de ville accueillante plutôt que de ville attractive. Ça a été un peu dit dans les propos sur la sobriété des événements qui sont organisés, que ce soit à Bourges ou à Montbéliard. Et en même temps, il y a quand même une forte, inertie de cet impératif à continuer à être attractif au sens de faire venir, elle disait, des médias, des populations, des touristes, et puis du coup de changer le regard qu'on peut avoir sur une ville et aussi de participer à son redéveloppement économique dans un contexte compliqué comme il a été rappelé. Donc on sent bien que derrière cette nouvelle sémantique ou cette tentative de dépasser les impasses de l'attractivité en termes de développement urbain, on a du mal à inventer quand même un nouveau ou un contre-modèle.
Mais ce qui pose aussi la question du coup des récits, une forme de storytelling territorial qu'il faudrait réinventer. Et là-dedans, et c'est Charles Demouche qui en parlait, l'idée d'assumer un patrimoine industriel, un patrimoine plus patrimonial, Renaud Epstein, ça c'est quelque chose aussi qu'on peut observer à peu près partout, c'est-à-dire que c'est une manière de se raconter à la fois dans des logiques institutionnelles, mais à la fois vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ses habitants, c'est porter un récit de soi.
Alors tout à fait, et ça c'est quelque chose qui se joue autour de ces labels, ces trophées, mais qui se joue finalement aussi en dehors. Depuis la fin des années 80, les villes sont incitées par l'État, et puis s'en saisissent elles-mêmes, à développer des projets. À avoir un projet pour le territoire. Un maire, son mandat, c'est plus simplement de gérer des services publics, c'est d'incarner le territoire, de porter un projet qui va mobiliser en interne l'ensemble des forces vives, des acteurs économiques, etc. et va lui permettre, en externe, de raconter la ville, de construire son image et de construire son attractivité. Alors ça s'est longtemps joué, sans qu'il y ait besoin d'avoir ce tampon, cette décoration du projet de la capitale, du label ou de la capitale. Désormais, ça se joue aussi largement dans ce sens-là, parce que comme finalement toutes les villes ont chacune leur projet qui se ressemble beaucoup, le pouvoir distinctif devient de plus en plus limité. Et le fait d'avoir comme ça un tampon, une caution, une légitimation par l'État, par l'Union européenne, par l'UNESCO qui va dire, dans toutes ces villes sont aujourd'hui des villes qui font de la culture et de la régénération urbaine par la culture. Là, il y en a une qui est particulièrement modèle. Là, d'un seul coup, ça vient renforcer ce pouvoir ou cette légitimité qu'ont les élites urbaines à produire un récit et légitimer ce récit.
Mais alors, ce qui est terrible, c'est que ces élites urbaines et notamment institutionnelles qui produisent ces récits parfois calquent des réalités quelque peu... Est-ce qu'on peut utiliser, Nicolas Maizetti, le terme de fable? Vous qui avez travaillé sur Marseille-Provence 2013, moi j'en ai un souvenir très clair, on racontait une capitale ouverte sur la Méditerranée, attractive évidemment, la Provence, le terroir, une ville du monde, où les communautés en fait vivaient en parfaite intelligence, etc. Et finalement, les gens ont plutôt adhéré à ce récit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a besoin de se raconter des histoires?
La plupart des villes sont des villes à histoire, au pluriel. Mmh. Elles se racontent des histoires. Et elles utilisent d'ailleurs leur histoire pour fabriquer différents types de récits sur elle-même. Marseille, c'est un bon exemple. C'est déjà dans sa fondation, Protis Aegyptis, le marin grec et la fille du roi paysan. C'est la ville rebelle.
Ça, typiquement, ça veut dire que ça a été un choix de la part... Alors, la candidature de Marseille-Provence 2013 a été portée à l'origine par la Chambre de commerce. Ça a été un choix de se dire c'est ça qu'on va raconter comme histoire.
Le récit qui a été choisi pour raconter Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, c'est le récit méditerranéen. C'était l'idée de dire on va être une capitale méditerranéenne. D'ailleurs, à l'Union européenne, on leur a dit c'est d'abord une capitale européenne de la culture, donc ils ont rajouté capitale euro-méditerranéenne. Voilà. Mmh. On voit bien aussi l'agilité, on en parlait tout à l'heure, de ces promoteurs de labels à s'ajuster en fonction des demandes aussi de ceux qui fabriquent les labels et qui les décernent. Donc la capitale euro-méditerranéenne, c'était pour retisser aussi un fil historique après la désindustrialisation l'industrialisation et la perte du lien entre le port et la ville. C'était aussi la question de la décolonisation aussi. On dit souvent que Marseille a pas fait son deuil colonial d'un point de vue économique, culturel, politique, social. Et donc l'idée de raconter la Méditerranée, c'était de dire autrement la place de Marseille dans ce système méditerranéen, ses liens avec le Maghreb et le monde arabe. Et c'est cette invention-là de la Méditerranée qui visait aussi, d'un point de vue géopolitique aussi, on était en pleine relance du partenariat euro-méditerranéen, et l'idée de la capitale européenne de la culture marseillaise, c'était de dire, on va remplir cette case culture du partenariat euro-méditerranéen à l'échelle diplomatique que vous êtes en train de relancer. Donc on voit bien qu'il y a plein de dimensions, et que cette dimension narrative de raconter des histoires dans la ville et de la ville est centrale dans ces labels.
Mais alors justement là-dessus, on entendait Charles Demouge à Montbéliard qui a porté avec l'intercommunalité cette candidature. Là c'est clairement un acteur institutionnel, des élus. Marseille par exemple, ça n'a pas été le cas. Vous évoquiez tout à l'heure Martine Aubry qui s'est légitimée à Lille par le biais de cette candidature. En fait, à chaque ville, sa trajectoire et son portage.
Oui, à Marseille, l'origine de la candidature, elle est au sein de la Chambre de commerce et d'industrie, qui avait constaté que Marseille figurait à une très mauvaise place. Et c'est là aussi où on se rend compte que les labels, les classements, les prix se dialoguent entre eux. À une très mauvaise place dans un classement qui avait été publié par la DATAR à l'époque. On est en 2003-2004 et Marseille figure à une 23e place, jugée très décevante par la Chambre de commerce, qui a envie de progresser dans cette hiérarchie urbaine, dans ce classement, dans cette compétition. Il n'y a jamais eu d'autres classements de la data. C'est une compétition, c'est des classements sans match suivant. Et du coup, ils se sont dit, on va utiliser la culture, qui est un des critères qui avait été utilisé par la data, et les événements culturels, pour progresser dans ce classement. Et donc, ils ont saisi les acteurs politiques, d'abord marseillais, c'est-à-dire la Chambre de commerce, et notamment son nouveau président à l'époque, qui s'appelait Jacques Pfister, qui a saisi les acteurs politiques, d'abord marseillais et ensuite aixois, en considérant que c'était compliqué d'enrôler uniquement la municipalité marseillaise. C'est pour ça qu'on dit Marseille-Provence. À l'époque, il n'y a pas de métropole entre Aix et Marseille, et l'idée c'était constituer un projet métropolitain en termes de gouvernance entre Aix et Marseille pour préfigurer un nouveau territoire d'action publique. Et donc, la Chambre de commerce disait à l'époque, j'ai un objectif, le développement économique, et une obsession, la métropole, en liant développement économique et métropolitain.
Ce que vous nous dites, c'est que finalement, la culture, c'est pas le sujet.
Moi, j'ai trouvé effectivement que c'était assez secondaire dans la construction de la candidature. La programmation culturelle est quelque chose qui est finalement découlé de d'autres enjeux géopolitiques, de gouvernance donc institutionnelle, de légitimation politique, de développement économique, de changer la réputation de la ville. Le contenu culturel, ma foi, c'était un petit peu secondaire dans cette
affaire. Renaud Epstein.
Alors, c'est sans doute secondaire, et en même temps, si on se place du point de vue des acteurs culturels locaux, c'était certainement pas secondaire. Le fait que ça a été décroché, ce titre, c'est devenu pour eux une ressource. Et je crois que ça, c'est vraiment aussi une chose très importante, parce qu'on se focalise, quand on regarde les labels, sur les élus, parfois les acteurs économiques, mais dans la masse de labels qui existe et de titres de capital qui, à l'origine des candidatures qu'ils portent, ce sont la plupart du temps des segments de l'administration. Ceux qui sont en charge de l'innovation technologique, qui voient le titre de capitale européenne de l'innovation et qui vont essayer de convaincre leurs élus de postuler. Et pourquoi? Parce que, notamment, moi je l'avais vu très clairement à Nantes, où les acteurs, comme ça, ceux qui ont porté cette candidature, me disent, c'est bien simple, c'est une fois qu'on décroche ce prix, qui est un prix qui est très très prestigieux, on est sûr que pendant 2 ans, on nous fait plus chier et on gagne tous nos arbitrages budgétaires. Donc il y a aussi, il faut toujours se dire ça, que c'est pas simplement une compétition entre villes pour avoir la reconnaissance, mais à l'intérieur des villes, il y a des formes de concurrence entre différents segments sectoriels, différents acteurs sectoriels qui sont en lutte pour dire que mon sujet, celui que je porte, il faut qu'il soit au sommet de la pile. Et le fait d'avoir cette reconnaissance, de décrocher ce titre, ça va dire que pendant au moins 1 an, l'année où on a le label, où on a ce titre, son dossier, son sujet va être prioritaire par rapport à tous les autres.
Vous écoutez Douce France par Nora Amadi sur France Culture.
Bonjour monsieur. Ça va, vous allez bien? Est-ce que je peux vous poser une petite question? Vous habitez Montbéliard?
Sud du Nord.
Comment?
Je suis du Nord.
Et vous habitez ici?
Ouais.
Est-ce que vous étiez au courant que Montbéliard était capitale française de la culture cette année?
Oh, ça, j'en sais rien. J'étais un ancien de la musique à Maubeyère. Bah, vous m'excuserez.
Ouais, je vous laisse. Allez.
Je suis Laurent Arbaet, je suis professeur de mathématiques au lycée Thion, ici à Montbéliard.
Océane, et je travaille à la gare, au relais dans la gare de Montbéliard, où il y a presse et café.
Je m'appelle Joram et je suis actuellement dans la filière licence VEVH à Germaine-Thion, Montbéliard.
Est-ce que vous étiez au courant que Montbéliard et son agglomération étaient capitale française de la culture cette année ?
Non, je ne savais pas.
Absolument pas, vous me l'apprenez. Non, je savais pas du tout.
Non, je savais pas. Je viens de l'apprendre. Ben, en vrai, c'est une bonne chose, hein, mais ça m'apporte pas grand-chose non plus de le savoir. Hein.
Ben, je m'appelle Olivia et ben, moi, je suis étudiante à Besançon. J'ai 22 ans. Oui, j'étais au courant, mais ça m'a pas démangé d'y aller, par exemple. Voilà.
Arnaud, donc ça fait 7 ans que j'habite Montbéliard. Alors oui, je suis au courant, parce que de plus, je suis membre du CODEV, donc du Conseil de développement des pays de Montbéliard Agglomération, et je suis parti de plusieurs commissions, dont celle sur la culture, sport et attractivité. Ben, j'ai trouvé que c'était une opération assez réussie, que c'était assez positif dans l'ensemble. Ben, reste à savoir ce que les gens en pensent, quel héritage à début 2025 il y aura par rapport à cette année, Capitale française de la culture 2024.
Claudine, est-ce que vous étiez au courant que Montbéliard et son agglomération était capitale française de la culture en 2024?
Ah oui, bien sûr. Ben oui, je suis une vieille montbéliardaise, alors il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais.
Et alors, comment vous l'avez vécu? Vous avez trouvé cette manifestation intéressante?
Non, pas du tout. J'en dirai pas plus. Bon, je m'arrête là. Au revoir.
Voilà, c'était donc le petit micro-trottoir réalisé par Clara Menet aux abords de la gare de Montbéliard. Alors évidemment, un micro-trottoir n'est pas représentatif, hein, les habitants sont partagés, on l'entend. Mais là-dessus, Nicolas Maizetti, on a entendu depuis le début de cette émission à quel point il y a des logiques institutionnelles, des logiques de corporation, des logiques sectorielles. Et les habitants là-dedans?
C'est vraiment la question, hein, parce que les habitants sont toujours mis en avant. On l'a entendu dans les premiers extraits tout à l'heure. On fait ça pour les habitants, pour la population locale. Et en même temps, on se rend compte que dans la mise en œuvre des labels, c'est beaucoup pour ce qu'un géographe appelle les classes visiteuses, hein, c'est-à-dire les touristes, les regards extérieurs, les gens qui sont pas amenés à rester forcément dans la ville. Donc la question, c'est celle aussi de l'ancrage et de l'appropriation sociale et par les habitants eux-mêmes de ces dispositifs. Et moi, ce que j'avais vu à Marseille, c'est que paradoxalement, il y avait des formes d'appropriation,
ah oui,
mais par la critique et la contestation. C'est-à-dire que les gens, certaines personnes, certains groupes s'étaient emparés de ce label-là par la critique et la contestation pour critiquer ce qu'on disait.
On pense à la rappeuse Kenny Arcana qui avait fait l'année de la rupture, je crois.
La capitale de la rupture. Absolument. Mmh. Il y avait des critiques plus ou moins radicales de cette opération qui était...
Bah, il faut dire que typiquement, si on prend le rap, le hip-hop, qui est aussi en partie né et grandi à Marseille, tout le milieu du hip-hop marseillais n'a pas du tout été associé.
Oui, il n'y a pas eu de contenu sur la scène rap marseillaise qui avait été d'ailleurs à l'époque dénoncée par Akhenaton, hein, qui avait regretté de ne pas avoir été associé et qui témoigne aussi du fait que en termes d'appropriation et d'ancrage local, le compte n'était pas complètement. Et en même temps, dans ces critiques-là, on a vu des formes d'appropriation. Je pense à une autre forme de critique qui était le off. Il y a eu un off à Marseille 2013 qui s'appelait d'ailleurs Marseille 2013 off, qui a organisé toute une série d'événements, d'expositions, de fêtes, y compris d'ailleurs avec le IN à la fin. Il y a eu des liens qui ont été instaurés. Et on parlait aussi un peu d'héritage. Il se trouve que l'un des héritages principaux de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, c'est le HOF qui l'incarne, puisqu'il s'est transformé en Marseille 3013, hein, en disant qu'il serait capitale européenne de la culture pendant 1000 ans. Et aujourd'hui, ce collectif continue d'exister, continue d'organiser des événements. La semaine dernière, il y a eu la Trocadence, les Marseillais connaissent bien. lycéens, enfin en tout cas certaines d'entre eux, d'entre elles, et c'est toujours des collectifs qui sont actifs et qui sont dans le sillage de cet événement-là.
Mais alors on entend beaucoup parler d'héritage hein, dans tout ce qui a été dit, et d'ailleurs ça fait toujours partie des cahiers des charges hein, de ces labels, quel héritage. Mais si on prend par exemple une ville comme Marseille, beaucoup disent aujourd'hui, dix ans plus tard, que effectivement cela a participé du changement d'image à tel point que Télérama a fait une une, Marseille Capitale, qui avait fait grand bruit à Marseille à l'été 2022. Qu'est-ce que ça veut dire, Renaud Epstein, vous qui travaillez sur les labels, mais de manière beaucoup plus large que strictement les labels Capitale? Après tout, les habitants, les usagers, c'est pas le sujet?
Alors, c'est pas le sujet, et pour les responsables politiques qui vont à la conquête de ces labels, ça peut aussi l'être. Ça peut aussi l'être parce que le fait de se faire reconnaître par une institution jugée légitime, l'État, l'Union européenne, comme étant le meilleur ou un des meilleurs. Donc,
ça participe du récit.
Ça participe du récit et ça participe de la légitimation politique de dire, regardez, c'est pas simplement on fait de la communication politique en disant regardez tout ce qu'on fait, regardez tout ce qu'on fait, mais c'est regardez ce que les autres disent de nous, et c'est une forme de légitimation politique. Une légitimation politique qui n'est pas sans risque en même temps. Parce que, d'abord, aller dans la compétition pour obtenir un label, c'est risqué de ne pas l'avoir. Quand Bordeaux avait postulé pour le titre de capitale verte de l'Europe et qu'ils ont eu un zéro pointé sur 10 critères sur 12, Alain Juppé, ses opposants s'en sont saisis. Et quand on obtient le titre, les caméras, les lumières se braquent sur vous. Vous êtes exemplaire, etc. Mais en même temps, ça donne aussi de la ressource pour tous les opposants qui vont contester l'exemplarité. Quand Nantes a été capitale verte de l'Europe en 2013, tous les opposants à Notre-Dame-des-Landes s'en sont saisis pour justement interpeller, critiquer. Et cette critique, elle se diffuse d'ailleurs à tous les niveaux, localement. Mais elle se diffuse aussi parmi les dispensateurs des labels. On voit se multiplier maintenant ce qu'on appelle en sociologie de la culture les mock prizes, qui tournent en ridicule les prix. La Fédération des usagers de la bicyclette, une des plus grandes fédérations de cyclistes en France, décerne tous les ans un guidon d'or pour les collectivités qui ont la meilleure politique cyclable et un clou rouillé qui vont stigmatiser les villes qui ont les pires politiques. Et ça aussi, localement, ça peut avoir toute une série d'effets.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, on a des collectifs aujourd'hui d'usagers, d'habitants, qui sont en train de retourner ces politiques de labellisation, au même titre que ce que vous nous disiez à l'instant, Nicolas Maizetti, sur les collectifs marseillais qui s'en sont emparés, mais plutôt dans une forme de rupture.
Tout à fait, on prétend être exemplaire, on prétend être un modèle. Pour tous ceux qui vont contester cette prétention et cette mise en lumière de l'exemplarité, ça va être une bonne occasion de régler des comptes politiques.
Politique. Nicolas Maizetti.
Oui, sur les Jeux Olympiques cet été à Paris, c'était assez, sur ce point-là, c'était assez amusant de voir qu'il y a eu une tribune dans le Figaro, je crois, même j'en suis certain que c'est dans le Figaro, qui critiquait finalement Anne Hidalgo, mais avec des arguments sur le fait que les Jeux Olympiques étaient un succès, donc ils reconnaissaient le succès des Jeux Olympiques, mais ça témoignait, selon cette tribune, de l'échec total de la politique municipale d'Anne Hidalgo, donc ça paraît un peu contre-intuitif, en expliquant qu'en fait, tous les facteurs du succès montraient que tout ce qu'elle faisait était à l'inverse. Donc ça veut dire l'accueil des touristes, les questions de sécurité, les questions d'embellissement de la ville, etc., qui étaient des marqueurs, selon eux, des Jeux Olympiques, et montraient en creux l'échec du bilan d'Anne Hidalgo. Donc c'est assez amusant de voir aussi que tout peut aller dans tout et inversement dans la manière dont on s'approprie ces labels dans le champ politique pour attaquer ses adversaires.
Si certaines villes et certains territoires sont labellisés très officiellement, d'autres le sont aussi, mais de manière plus officieuse. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour Nora, bonjour à tous.
Dans votre chronique cette semaine, vous vous penchez sur les fortunes diverses de ces 1001 capitales de notre pays.
Oui Nora, pour vous parler d'économie, d'attractivité, de savoir-faire artisanal ou industriel et de la façon dont tout cela s'incarne localement et concrètement. Elles ne sont mentionnées dans aucun registre officiel, mais vous les connaissez forcément, toutes ces capitales, de tel ou tel savoir-faire, spécialité ou tradition. Leur simple évocation suffit à les situer sur une carte. Si je vous parle, par exemple, de porcelaine, de nougat ou d'aéronautique, il y a de fortes chances que vous pensiez immédiatement à Limoges, Montélimar et Toulouse. D'autres capitales sont moins évidentes. Celle de l'Espadrille se situe au Pays Basque, à Mauléon.
L'Espadrille est à Mauléon ce que l'étoile est au berger, tantôt lumineuse et rayonnante, tantôt terne et presque éteinte, mais toujours là quand même, depuis 150 ans au moins pour l'Espadrille. Plus qu'une tradition, c'est aujourd'hui la véritable raison sociale et l'attache économique de cette région du Pays Basque, même si l'on ne compte plus que 650 personnes dans ce secteur, et si à la fin des années 50, il y en avait 1800.
Et voici résumé en quelques mots les défis que doivent relever ces villes et territoires. Crise économique, désindustrialisation. Un autre sujet de préoccupation mobilise les pouvoirs publics depuis très longtemps, comme ici à Limoges en 1962, à l'occasion d'un déplacement du général de Gaulle.
Monsieur le Président, je vous ai entendu avec beaucoup d'attention. Vous avez très justement fait observer à quel point la porcelaine de Limoges est un élément national. Vous m'avez réjoui, non pas en m'apprenant, mais en me confirmant la progression de l'industrie actuellement. D'autre part, je prends note de la question de l'emploi du terme Limoges. Du reste, on m'a dit que pour Aubusson, bien que ça n'ait aucun rapport direct, c'est un peu la même chose. Alors j'en ai pris note également.
Cette protection des appellations locales évoquée ici de quelques mots par le général de Gaulle est au cœur des stratégies de défense des spécialités économiques des territoires. Des stratégies qui misent aussi sur des regroupements d'entreprises avec le soutien de tous les acteurs locaux, y compris les chambres de commerce. À la fin des années 90, la capitale du parapluie, Aurillac, dans le Cantal, voulait ainsi croire à un possible renouveau.
Trois des plus anciens et des plus importants fabricants français de parapluies sont aurillacois. Les entreprises d'Albin, Pigagnol et Sofrap ont en 1996 décidé de relever le défi d'un nouveau parapluie.
Ça n'a pas été facile. Petit à petit, nous avons appris à travailler ensemble et aller vers ce but que nous voulons atteindre, c'est-à-dire faire du parapluie à Aurillac ce que le couteau est à la guillotine.
Alors au-delà des stratégies locales des uns et des autres pour défendre les savoir-faire associés à leur territoire, un pilotage manque pendant longtemps à l'échelle nationale. Arnaud Montebourg s'en émeut sous la présidence de François Hollande et lance une série de campagnes très volontaristes pour la défense du Made in France.
Les pays qui ont résisté dans la crise sont ceux qui ont su s'unir. Les consommateurs, les financiers, même les financiers et les banquiers, ici sont mis. Les industriels, les citoyens, les syndicats, les salariés, tout le monde.
La suite est connue, le départ d'Arnaud Montebourg de Bercy, remplacé par un certain Emmanuel Macron, une défense du Made in France qui continue, mais se heurte aux limites imposées par une économie ouverte et les normes européennes. Alors Nicolas Maizetti, au-delà d'une dimension peut-être un petit peu folklorique ou un peu anecdotique sur la défense des savoir-faire locaux, on voit que le marketing territorial se base notamment sur ces images très fortes associées aux cultures et aux terroirs locaux. Est-ce que c'est un élément important pour la distinction entre les territoires ?
Dans les enjeux de les instruments de marketing territorial, de city branding, on observe qu'il y a toujours deux cibles. En effet, il y a une cible d'abord extérieure, c'est-à-dire bon, ce qu'on disait tout à l'heure, attirer les investisseurs, faire venir des touristes, etc. Et en même temps, effectivement, il y a une cible intérieure, c'est-à-dire l'idée d'affermir localement une fierté des habitants de leur propre patrimoine, de leur propre ville, de les rendre fiers de leur ville. Le cas un peu emblématique en matière de marketing territorial qui est souvent brandi, c'est le cas de Lyon, qui ont inventé une marque, mais qui est plus qu'une marque, qui est vraiment une démarche de développement économique et d'attractivité, qui s'appelle Only Lyon, c'est l'anagramme, et qui incitait les habitants à se prendre en photo eux-mêmes devant le logo qui est un lion et de se faire eux-mêmes les ambassadeurs de leur propre ville, voilà. et donc dans tous les stratégies de marketing territorial, il y a ce mimétisme qui est d'avoir un outil qui permet à la fois de s'adresser à l'extérieur et en même temps de renforcer cette fierté locale.
À tel point que, pardon Nicolas Maizetti, vous me disiez en préparant cette émission que Lyon a pensé, pour se mettre sur la carte du monde, créer son propre classement par exemple.
Absolument, c'est un travail qui a été réalisé par Fabrice Bardet et Ashley Gilly, qui explique dans la revue Métropole que les entrepreneurs lyonnais, notamment autour de cette gouvernance économique métropolitaine lyonnaise, les élus et les acteurs économiques, tentaient d'inventer leur propre classement, le classement de Lyon, qui leur permettrait d'abord de figurer en bonne place dans ce classement.
Comme le classement de Shanghai.
Et en plus, effectivement, par effet de résonance, le classement de Shanghai, c'est aussi de la visibilité pour la ville de Shanghai. Ce classement l'aéroport de Lyon permettrait à Lyon de bien figurer dans la visibilité internationale.
Alors Renaud Epstein, que vous inspirent les fortunes diverses de ces capitales, entre guillemets, non officielles, confrontées à la crise économique? Est-ce qu'il faut intégrer la défense des savoir-faire locaux, qui est donc toujours très localisée, dans des politiques économiques et d'aménagement du territoire?
Alors la question est complexe, elle est d'autant plus complexe que se pose le savoir si le fait d'être reconnu comme étant capitale alors du parapluie
de l'espadrille
ou de la saucisse, est-ce que ça rend le territoire plus attractif? Alors je plaisante en disant saucisse espadrille, mais même est-ce que être capitale européenne de l'innovation ou de la culture, est-ce que ça vous rend plus attractif? Il faut bien dire les choses. Aujourd'hui, on ne dispose d'aucune évaluation sérieuse qui montre que c'est rentable. Il y a une croyance forte de la part des acteurs que c'est rentable, mais c'est loin, loin, loin d'être établi, y compris pour les titres les plus prestigieux. Une des rares évaluations sérieuses apportées sur le titre de patrimoine mondial de l'UNESCO, il n'y a pas plus prestigieux, ça n'apporte pas de surcroît de visiteurs. Parce que souvent, d'ailleurs, pour une raison simple, on est labellisé patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'on est déjà reconnu au niveau et connu. Par contre, et c'était un des résultats des travaux que moi j'avais fait avec Laure Bérény sur le label diversité, ce qui est important en réalité, c'est pas le label comme instrument de marketing, ce qui est important, c'est le processus de labellisation. À partir du moment où dans une île, on décide, on va essayer de décrocher ce titre, qu'on a 6 mois pour monter un dossier, ça change les choses localement. Ça oblige tout, j'imagine, vos industriels du parapluie dont parlait, je ne sais plus si c'était Montebourg ou De Gaulle, à s'entendre pour se dire, qu'est-ce qu'on va faire ensemble?
Ça crée de la transversalité, ça crée une logique de projet.
Et ça met tout le monde sous pression parce qu'on a 6 mois pour s'entendre, pour dire qu'est-ce qu'on veut faire et on ne peut pas se permettre de continuer à se tirer dans les pattes. Et donc, je pense que c'est peut-être ça qui est plus important dans le label, non pas comme tout le monde le dit, le label comme instrument de rayonnement, de marketing, d'attractivité, mais le label comme instrument de pilotage local d'une société qui est de plus en plus dure à gouverner.
Constitution d'un acteur collectif, c'était aussi les enjeux, c'est de mettre les acteurs économiques et les acteurs politiques autour, non pas seulement autour de la table, mais alignés autour d'un objectif, et aussi de faire baisser les conflits et les divisions politiques, parce que tout le monde doit être aligné autour de cet objectif.
Alors, dernière question, parce qu'on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Est-ce que tous ces labels ont de l'avenir à l'heure où il y a un grand projet qui nous occupe tous? C'est la transition écologique, c'est aussi les questions de climat auxquelles doivent faire face tous ces acteurs. Qu'est-ce que ça veut dire encore aujourd'hui, en 2025, en ce début janvier, de labelliser encore et toujours?
Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que le domaine de ce qu'on appelait le développement durable, qu'on appelle aujourd'hui la transition, a été le domaine phare du développement des labels à partir de la fin des années 90. Quand l'Europe crée le titre de capitale verte de l'Europe, ils commencent par faire une étude, un benchmark, pour voir quels sont les prix qui existent et les trophées. Ils en repèrent plus de 100 à l'échelle mondiale. Et donc moi je pense que c'est assez révélateur, parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit que les labels se diffusent d'autant plus qu'on est dans des domaines sur lesquels on ne sait pas quelle est la solution. On ne connaît pas la solution. Et donc, on va pas dire faire une loi, faire une norme en disant voilà ce qu'il faut faire. Et on va plutôt dire on est paumé, dites-nous qui peut nous dire ce qu'il faut faire, faites-nous remonter vos bonnes pratiques. Et donc, j'ai tendance à penser que la crise climatique et le mur climatique qui nous attend va plutôt inciter à la floraison toujours plus forte de labels, de trophées qu'à leur disparition.
Nicolas Maizetti, c'est quoi la suite pour ces labels capitales, notamment culturels?
Il y a une transformation des villes qui sont lauréates. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans... autrefois même, il y avait des villes capitales qui avaient été lauréates. Paris
en 89.
Absolument. Ensuite, on est descendu, si je peux dire, dans les capitales régionales. Et comme ça a fait le tour des pays membres de l'Union européenne et que tout le monde est un petit peu servi maintenant, on a un autre niveau, une autre taille de ville. On l'a vu avec Bourges, on l'a vu en Italie avec Matera. Il y a d'autres hiérarchies urbaines aussi qui se recomposent. Donc on peut se demander quelle va être la suite, quelles vont être les villes qui vont être labellisées si on continue à étendre ce label-là. Et puis, comme on parle de méga-event, de grands événements, il y a l'un des événements les plus importants, c'est les Jeux Olympiques, quand même, et qui sont là en crise de candidats. Entre Paris et Los Angeles, on se souvient, il n'y avait que 2 candidats, donc ils ont dû s'arranger entre eux pour faire 2024-2028. Et la suite, c'est pas très clair. Donc, sur les labels, c'est une une chose en termes de diffusion sur les grands événements type Jeux Olympiques, type Expo, type peut-être que là on rentre dans une phase un peu plus incertaine.
Ouais, une phase peut-être de sobriété. Merci à tous les deux, Renaud Epstein, Nicolas Maizetti. Merci à vous de nous avoir éclairés en ce début janvier. On espère que vous ne profitez pas trop encore des agapes. Merci en tout cas. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, Vanessa Nadjar à la réalisation, à la technique c'était François Saint-Jour. Vous pouvez écoutez, réécoutez cette émission en podcast et à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, commenter, réagissez par mail ou sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 20h. Et d'ici là, très bon week-end, évidemment, sur France Culture.